Rennes le jeudi. Alors ça, c'est ce qui se passera après l'apéritif que le Tiana servira avec le groupe Bachavav dans quelques instants. Alors les percussions, on le sait, se prolongent ainsi que d'autres bruits divers tout au long de la nuit, même après la fermeture des bars qui est maintenant fixée depuis arrêté préfectoral de 2005 à 1h du matin, ce qui justifie... Oui, mais attendez, ne levez pas la police que vous allez entendre qui intervient ici.
N'étant pas amateur de tam-tam, on va vous prier de quitter les lieux.
Bon, je vais aller plus.
D'accord. C'est pas de tam-tam, c'est du vieux.
Tu dis que tu veux nous mettre à la maison? Tu dis que tu veux nous mettre à la maison?
J'ai rien fait, monsieur.
Lève les bras. Ah,
mais c'est pas moi qui ai fait ça.
Il est 1h30. Les connards dans ton genre, ça me casse les couilles. Alors maintenant, tu rentres.
C'est pareil, vous avez plus.
Dans 20 minutes, t'es encore là. Parce que je viens passer en 20 minutes, c'est au poste en IPN.
D'accord.
Tu traces. Compris, connard ? Trace.
À 1h30, la piste continue et les policiers recommandent ceux qui seraient encore là 20 minutes trop tard de tracer. Alors heureusement, au milieu de notre public d'habitués, enfin je veux dire d'habitués de France Culture, mais d'habitués de la piste aussi, il y a des vieux routiers de la fête. J'ai pas présenté André Sauvage comme un cofondateur du fameux laboratoire, le LARES, à l'université de Rennes 2, avec un de vos jeunes collègues, Christophe Moreau, ici présent aussi. Vous publiez bientôt chez Apogée un livre sur la fête et les jeunes. Vous avez roulé votre bosse, hein, pas mal. Beaucoup de fêtes techno, de tout type.
Oui. Pas tellement les technos, mais d'autres fêtes, le cas échéant. Mais...
Bah, c'est quand même, Christophe Moreau, au nom d'une certaine expérience, voilà, que vous distinguez trois types de fêtes techno, les polémiques...
Oui, les hédonistes, hein, des soirées où de rigueur il y a les costumes, il y a le côté artistique, et puis les soirées polémiques, donc les soirées plutôt les free parties, où alors là, ça se passe plutôt en marge de la ville, en marge du droit, et puis c'est ça qui a donné lieu aujourd'hui au Technival, au free party, et qui a suscité beaucoup de polémiques justement.
Et Christophe, vous avez une expérience d'enfance, vous, parce que vous buviez déjà des petits coups en Anjou.
Oui, vous avez lu que donc dans mon adolescence, au début de mon adolescence, j'étais donc dans la région du Craonnais, en Mayenne, près du Maine-et-Loire, où il y avait chaque année au 1er mai la soirée des Mouillotins. Et donc on parcourait les villages, enfin les hameaux autour de la commune pour ramasser des œufs. Donc c'était en général les jeunes garçons, il y avait quelques filles, mais surtout les jeunes garçons. Et puis on se prenait une grosse biture accompagnée par tous les paysans qui nous accueillaient chez eux, qui nous offraient une omelette et puis un verre de goutte ou du cidre ou ce qu'on voulait. Et
donc on aura ce soir la dimension rurale, parce que les technivals c'est souvent au monde rural, la dimension rurale ancienne, des points de vue médicaux variés. Je vois dans le public le docteur Lelièvre qui nous accompagne souvent. Vous avez un récit de médecin de campagne d'autrefois à nous apporter en guise d'apéritif?
Oui. Il y a plus de 50 ans, je prends la succession d'un médecin en pleine campagne. Il me dit il va falloir aller ponctionner une ascite. Je m'amène. Il avait un ventre de 9 mois. Toc, je perce. Je remplis un siao, parce que là-bas, on parlait de siao. Il regarde. Puis il me dit, mais c'est drôle, j'ai jamais bu d'eau. Et alors, bien mieux, après, à chaque fois, il me disait, oh docteur, vous allez bien boire un petit peu de goutte quand même. Ah, je disais, non. Un jour, avant qu'il décède, il me dit, oh docteur, je suis content que vous ayez toujours refusé. Ça m'aurait fait peur que vous buviez.
Alors, à propos de médecin, un autre habitué, c'est le docteur Caro. Vous savez, docteur Caro, vous publiez une recension, un rassemblement de tous les textes que vous avez produits. Vous êtes un pionnier de l'alcoologie conviviale en Bretagne. À partir de vos expériences depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, il y a un proverbe au tout début là que vous pourriez peut-être lire en exergue.
D'accord. C'est un proverbe français. N'écoute pas ton médecin comme lui. Fume la pipe et bois du vin.
Alors donc, des médecins, des sociologues, en écho, la voix de Daniel. Daniel, c'est le Shadok. Je dis ça en hommage à Claude Pieplu, qui vient de mourir, qui nous accompagne aussi régulièrement. Place Sainte-Anne. Donc, notre thème, la fête joyeuse, est une question sérieuse. Alors, puisque la fête s'organise autour de la musique, c'est un renversement des sens. Christophe Moreau, la fête et la musique y participe d'abord.
Oui, on a beaucoup évoqué la question de l'émotion. Hein. La fête, c'est un moment où on partage de l'émotion et il peut y avoir de l'ivresse autour de l'alcool, on va en parler, mais il y a de l'ivresse aussi autour de la musique et de la danse et des jolies filles, par exemple. Tout ça contribue à une charge émotionnelle importante et c'est une affaire très sérieuse dans une société et ça doit être pensé en termes d'action publique.
Oui, même si on ne comprend pas toujours les paroles de la musique, ça n'est pas grave, vous le dites à propos du rock, on pourrait le dire aussi à propos du groupe rennais, mais inspiré par la collecte, le voyage, la circulation dans les Balkans. Je vois dans ce groupe Virgile qui s'est joint à Jean-Baptiste, à Florent, à Céline, à Julien qui vient du Banat, c'était notre thème lundi dernier, et puis en apéritif à notre piste de lundi et de mardi, nous serons à Istanbul dans un café lundi et mardi. Le premier morceau de Pachavage, c'est Istanbul. le groupe Bachabaf qui inaugure notre tournée des Grands Ducs au Lara Café à Istanbul lundi et mardi. À propos de tournée des Grands Ducs, tout à l'heure on entendait en écho loin derrière mon micro le Shadok de la place Sainte-Anne, je veux dire Daniel, qu'est-ce qui se passe là? Vous buvez seulement de l'eau?
Oui, parce que ça m'intéresse de boire de l'eau, mais entre parenthèses, j'adore l'alcool. Et je vais vous dire autre chose. Les anciens, nos ancêtres, ils ont toujours bu de l'alcool, ils sont pas morts pour ça. Par contre, actuellement, il y a un problème. C'est qu'il y a des sectes, maintenant il faut plus manger de la viande, il faut plus manger d'œufs, il faut plus fumer, il faut plus boire. Il faut plus baiser non plus avec le sida.
C'est d'ailleurs le thème de la couverture du livre chez l'armatante Guy Caro, c'est un dessin de Volinsky, hein.
Oui, alors.
Qu'est-ce que c'est le dessin? C'est une jeune dame.
Alors, donc, il faut dire juste les deux mots qui précèdent, hein. Le titre c'est De l'alcoolisme au savoir boire et c'est illustré par un dessin de Volinsky. Alors, il y a un gars qui a l'air sérieux, baraqué, un peu comme Jean Lebrun, hein. J'ai commencé par cesser de boire. Ensuite, j'ai arrêté les cigarettes. Enfin, j'ai supprimé le sexe. Alors, il y a une jolie fille en face de lui qui lui dit « Qu'est-ce qu'il vous reste ?» Et il dit « La santé. »
Oui, mais enfin, de toute éternité, la Bretagne serait buveuse. Je vois Roland Leloirne, un autre de nos auditeurs, extrêmement sobre, parce que il doit suivre la ligne fixée par un article d'Armen de 2004 qui l'a constellé de post-it.
Bon, la Bretagne, oui, est buveuse depuis longtemps, apparemment, d'après ce que dit Gérard Hall dans cette numéro d'Armen. Il y a eu une forte production de vin, de tout temps, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, puis l'arrivée du cidre à partir du XVIIe siècle, mais la Bretagne n'était pas un pays alcoolique. Donc en 1824, la Bretagne, en taux d'alcool pur bu, est un des taux les plus bas d'Europe. C'est le 19e siècle qui va voir particulièrement la fin du 19e siècle, qui va voir la progression de l'alcoolisme, avec la taxation des boissons dans les cabarets, donc une répression financière de la piste du samedi soir ou ce qu'on appellerait aujourd'hui le week-end, et la croissance de la vente d'alcool à la maison, puis l'arrivée du vin rouge, essentiellement après la guerre 14-18. Donc on pensait, je pensais plutôt que c'était les vins de l'Hérault, les vins du Languedoc qui étaient grands responsables de l'arrivée du vin rouge, mais c'est surtout les vins d'Algérie. Les vins de l'Hérault ont essayé de s'imposer en Bretagne, les Bretons les aimaient pas, ils n'étaient pas assez forts. Donc ce sont les vins d'Algérie qui ont régné pendant 40 ans, jusque dans les années 60, avec des chiffres absolument extravagants de consommation de vin, de débit de boisson, et d'alcoolisme bien sûr. Puis après, à partir de la fin des années 60, bon, l'indépendance de l'Algérie, l'arrachage des plants de vignes étant passé par là, on a une crise continue du gros rouge qui tâche, enfin du vin 3 étoiles. Donc les Bretons se souviennent de la Société des vins Gevel, du Père Benoît, du Saint-Hubert, du Grappe Fleury, etc., etc. Pour arriver aujourd'hui à une consommation de vin en Bretagne qui apparemment est tout à fait dans la moyenne française et qui est plutôt orientée sur une consommation de bons vins. Dégustation, notamment les jeunes, avec un retour en force de la bière qui, elle, sert à la piste.
Mais tout de même, avant qu'on ne parle de la piste et de ses spécificités rennaises, je veux bien que la tradition ne remonte pas aux aïeux des aïeux. Mais enfin, elle remonte quand même aux aïeux, aux arrière-grands-parents, aux grands-parents. On boit comme son père ou on ne boit pas comme son père. Il y a toujours une liaison avec le père dans la boisson.
Alors, j'ai l'impression qu'on ne boit plus du tout comme son père. La génération de mon grand-père, quand j'étais gamin, avait 70 ans environ, et cette génération-là buvait dans un petit bistrot de Ploie qui s'appelle Dernier Sou, après les parties de boules, un vin qui s'appelait l'Amélioré, et qui était en fait du 13 degrés vieilli dans la cave avec de la poussière. Bon, là, c'est vraiment une consommation de vin qui, je pense, est en voie de disparition. Le nombre d'entreprises qui produisent ce type de pinard, et puis les bateaux s'appelaient même les pinardiers, est en chute libre. Il n'en reste apparemment plus que 3 en Bretagne, usines d'embouteillage. Et on est passé à une consommation qui est beaucoup plus faible en termes de quantité, ne serait-ce que la génération de mon père et la mienne, je peux en témoigner, enfin en tout cas en ce qui me concerne, on boit beaucoup moins de vin et du meilleur vin.
Vous pouvez en témoigner en ce qui vous concerne, parce que bon, je ne vais pas dire quel est le métier assez lié à l'eau que vous pratiquez, mais vous avez tenu vous-même un café ou été serveur dans un café?
Oui, absolument, quand j'étais étudiant, et la consommation de vin était assez réduite. Donc il y avait essentiellement une clientèle jeune, le cidre tournait très bien, c'était les années où le cidre faisait 25% de croissance par an, en progression nette de consommation, et sinon, évidemment, c'était la bière.
Et c'était où ça?
C'était rue Saint-Michel, donc la rue de la Soie Fresnaise, juste à côté d'ici.
La rue Saint-Michel. Mais Daniel Le Chadoc, vous fréquentez plus la rue Saint-Michel?
Non, avec la drogue et tout le système qu'il y a à la rue Saint-Michel, cette rue doit être interdite à Rennes.
Bon, alors, c'est ailleurs que pour vous se passe le jeudi soir. J'ai indiqué que vous buviez de l'eau, là, Daniel, mais on va voir quels sont les produits qui sont utilisés le jeudi soir à Rennes. On a donc noté cette tendance longue au vin de bonne qualité. Guy Caro fait des gestes de dénégation.
Oui, non, c'est pas aussi simple que ça. Hein. On peut résumer les choses en disant que l'alcoolisme en Bretagne, comme partout ailleurs, est le résultat de facteurs complexes, et c'est simple à dire, il y a des facteurs biogénétiques, des gens plus fragiles que d'autres, hein. Il y a des facteurs psychologiques dans les histoires familiales, personnelles et familiales, avec des souffrances, des drames, des tragédies qui amènent des gens à devenir alcooliques. Il y a des facteurs sociologiques avec des conditions de vie, des conditions de travail. C'est pas par hasard qu'il y avait bien plus d'ouvriers du bâtiment, de manœuvres du bâtiment, de salariés agricoles, de marins pêcheurs qui avaient des conditions de travail très dures, qui étaient plus touchés par l'alcoolisme que la moyenne, non seulement bretonne, mais française aussi. Et enfin, il y a des facteurs qu'on pourrait dire culturels et liés notamment à quelque chose qui fait partie de la spécificité bretonne. Il y a deux choses qui font partie de la spécificité bretonne, des manières de boire et de l'alcoolisme. La première chose, c'est ce que tu as dit, Ronan, ça s'est développé depuis un siècle, en même temps que certains phénomènes historiques qui ont entraîné une grande souffrance de beaucoup de Bretons. C'était la négation historique de l'identité bretonne, de la culture bretonne, l'interdiction de parler la langue bretonne, mais aussi l'émigration d'une grande partie des Bretons, des filles et des jeunes femmes plus que des hommes, d'où le célibat et un certain nombre de problèmes autour de ça.
Et deuxièmement, Guy Caro?
Et deuxièmement, c'est le fait que la question du vin et des alcools, parce qu'il n'y a pas que le vin, il y avait aussi la goutte, l'ambic, enfin l'alcool de pomme, et puis d'autres choses, il y a eu du pastis aussi à partir des années 70, des bières, des whiskies et d'autres choses. Il y a simplement que on a constaté le phénomène suivant en Bretagne, c'est que la Bretagne est une région non productrice de vin, comme le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, qui sont les régions les plus touchées par l'alcoolisme en France, alors que les régions les moins touchées par l'alcoolisme, et il y a des écarts statistiques énormes, hein, et constants dans l'histoire contemporaine, c'est des régions comme le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'où l'idée de, pour faire face à l'alcoolisme, améliorer, diminuer l'alcoolisme, l'idée de ne pas interdire les boissons alcoolisées, parce que ça provoque des effets pervers, notamment chez les jeunes, mais l'idée de apprendre à déguster, à connaître, à boire, notamment...
Attendez, apprendre à connaître, à déguster et à boire, chaque chose en son temps. Parlons d'abord des comportements des jeunes, dont le spectre ici, à Rennes, dépasse en effet le seul aspect vin. Alors, les témoignages que vous allez entendre, au grand dam de notre réalisateur, Jean-Christophe Francis, qui craint la propagande pour l'alcoolisme, ne témoigne pas, comprenez bien ça, Jean-Christophe Francis, de l'alcoolisme des jeunes, mais de leur prédisposition à des comportements que Christophe Moreau et André Sauvage pourront peut-être nous expliquer, de libération festive. Enfin, il s'agit d'ivresse. Alors, Marie, premier témoignage.
On est place Saint-Michel à Rennes et on discute autour d'une bouteille vide. C'est une bouteille de mousseux le moins cher, parce que forcément on n'a pas de sous et que du coup on boit le mousseux le moins cher. Et que de toute façon le mousseux c'est dégueulasse, mais on boit quand même.
Non, c'est bon.
C'est fruité, faut dire ça de la cuisse. Ça a du goût. Voilà. De toute façon, la jeunesse renaisse, et enfin, on est tous comme ça, tous ceux qu'on retrouve dans les rues le jeudi soir, c'est tous le même cas, on n'est pas beaucoup à se payer des super marques d'alcool pour pouvoir se bourrer la gueule ou faire la fête, quoi.
tu n'aurais pas acheté plutôt des bières ou de l'alcool fort?
Non, l'alcool fort ça assomme et c'est pas très marrant. Et les bières on en boit tout l'été avec papa maman, donc ça va. Mais au début, quand t'as 14 ans, tu commences tes fêtes avec des grandes bouteilles de bière, style c'est 64 d'un litre, ouais, ou les despets d'un litre pour ramener ça et tout. Et puis ouais, non, là on est passé au mousseux pour montrer qu'on est grand, quoi. Trop la classe.
Parmi nos invités, je prends le plus proche de l'adolescence, Christophe Moreau. Donc c'est la bascule, dit-on, c'est 16-17 ans, mais là vous entendez quelqu'un qui dit à 14 ans, on a commencé à faire autrement que papa et maman. Ça, c'est important.
Oui, ben on sait que, comment dire, les pratiques festives et puis les sociétés de jeunesse, comme on dit, c'est bien marquer le seuil par rapport à l'enfance, quoi. Donc il y a des rites de séparation par rapport à papa, maman et par rapport à l'enfance. Donc ça, je dirais, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est quand même nouveau et qui préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est l'allongement de la jeunesse. Donc c'est le fait que cette petite tranche d'adolescence où on commence à singulariser, à prendre de la distance par rapport à papa-maman, c'est pas nouveau. Mais par contre, ça dure de plus en plus longtemps. Et papa-maman ont de moins en moins de prise par rapport à ça. Parce qu'on parle de l'alcool, on peut parler du mousseux, de la bière, etc. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que l'alcool peut être un peu éduqué par les parents. Hein, beaucoup de gens ont travaillé là-dessus. Il y a une socialisation de l'ivresse par l'alcool. Or, ce qu'on observe, c'est que la jeunesse s'allonge et puis qu'elle trouve d'autres produits.
Alors, on va venir aux autres produits, mais sur le thème de l'allongement de la jeunesse, Paul Lyonnais, auquel vous faites souvent allusion dans votre livre, apparaître bientôt chez Apogée, Christophe Moreau, André Sauvage, dit l'adolescence, maintenant, c'est l'attitude qu'on attend de ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un rebondissement. Enfin, il faut être adolescent encore à 30 ou 40 ans pour être employable. Les reportages que vous entendez ont été faits par Gabriel Thierry. Alors, racontez-nous votre vie à Rennes, pas les jeudis soirs, Gabriel. Vous avez été un moment stagiaire à France Culture, et maintenant vous me dites, j'ai bien du mal, je suis rentré à Rennes, je suis obligé de faire des sondages pour une société qui veut vendre des appareils de radiologie en Angleterre. Alors je décroche mon téléphone parce que je parle parfaitement anglais, puis après vous savez pas ce que vous allez faire.
Eh ben, je sais pas encore, quoi. Le problème, c'est l'incertitude. C'est peut-être que dans 2 mois, j'en saurai un peu plus, mais pour l'instant, non.
Alors, est-ce que vous pensez que votre fréquentation, venons-en maintenant à votre cas personnel, du jeudi soir, René tient à ça?
Non, justement, j'ai arrêté de fréquenter le jeudi soir parce que des exemples d'amis m'inclinent à penser qu'il vaut mieux que j'évite cette rue pour justement pouvoir, dans 2 mois, avoir des choix pour faire autre chose.
Et l'adolescence se prolonge longtemps, Gabriel l'interrompt à temps. Thiago, il n'est plus tout jeune, il a bien dépassé 17 ans.
Ouais, je suis au Parlement, je suis en train de boire, quoi. Voilà, quoi, avec mes potes, quoi, on va aller en boîte après, quoi. Et voilà, quoi, ça se passe bien, quoi, l'alcool coule à flot, quoi. C'est pépère.
Qu'est-ce que tu bois comme type d'alcool?
Plutôt vodka, un peu de whisky, tu vois, on varie un peu, tu vois, c'est comme les couleurs, faut varier, tu vois. C'est comme la France, tu vois, black blanc beurre, quoi, c'est pareil. Faut varier.
Alors la variété des produits, on va en avoir un dernier témoignage avec le troisième reportage de Gabriel. Puis après, je vous promets, Jean-Christophe Francis, on arrête, on ne fait plus de la publicité pour l'alcoolisme.
Pourquoi ta boisson, tu la mets dans un truc hop?
Ouais, c'est tout à fait par hasard, c'est parce qu'en fait j'ai pas eu le temps d'acheter quelque chose ce soir et c'est un pote qui m'a dépanné. Il est avec ça s'est fait en 2 minutes et puis voilà. Un petit Moloco, Coco, à votre santé.
C'est quoi en fait un Moloco?
Bah c'est du rhum avec du lait et du sucre. Et on peut rajouter des petits trucs pour mettre du goût et voilà quoi, c'est très bon. Ça se boit sans fin, c'est comme du petit lait quoi, c'est ça.
Et c'est aussi convivial dans la rue que dans les bars?
Ça dépend de la température extérieure. C'est toujours convivial même s'il fait froid. Après, ça dépend quoi. Bon, après faut faire gaffe avec l'alcool parce que rapidement on capte plus rien et puis ça devient n'importe quoi. En fait avant des grandes soirées même que j'organisais, je co-organisais avec des potes. Ça m'arrivait de m'endormir et tout, bon bah c'est un peu trop con quoi, ça sert à rien quoi, bon faut essayer d'être soft, je sais pas. Le problème c'est un peu traître quoi, tu sais, ça monte en une heure, voilà, le pic 1 heure, 2 heures, faire gaffe à pas se faire avoir. Quoi. Mais après moi je sais pas, j'aime bien les alcools forts, hein, mais c'est bien que j'essaie de modérer quoi, j'ai un peu arrêté d'être alcoolique, c'est bien, je suis content.
Alors Didier Sud, notre technicien qui accompagne Jean-Christophe Francis, qui a eu beaucoup de mal à accéder à Rennes aujourd'hui parce qu'il y avait grève de Sud à la gare Montparnasse, qui a eu beaucoup de travail, se dit c'est quand même une ville intéressante si j'y reste finalement ce soir parce que les alcools prennent des bains de pied ici, Christophe Moreau.
Je je pourrais pas vous répondre sur les bains de pied, mais l'hypothèse en tout cas qu'on développe, c'est que s'il y a un déficit de reconnaissance sociale de la part des jeunes, ils vont se pencher plus sur des ivresses corporelles. C'est-à-dire s'ils trouvent pas une satisfaction dans la relation sociale, dans l'existence professionnelle, ils vont valoriser beaucoup plus l'ivresse, que ce soit avec les drogues interdites, donc ecstasy, cannabis, cocaïne notamment, ou bien avec l'alcool, mais ce serait une manière de compenser un déficit d'existence sociale. On réfléchit
à ça. Mais pardonnez-moi, parce que quand même, longtemps, la Bretagne nous expliquait, Ronan nous expliquait, Guy Carreau a été écrasé, colonisé, a connu le malheur, a eu plus de morts. Évidemment, il y avait davantage de fantassins pendant la guerre de 14, complexe de culpabilité. Et alors, moi, ce qui me frappe quand on entend tous ces reportages, et puis même les réactions d'hilarité générale dans la salle ici au Tiana, André Sauvage, c'est que maintenant le complexe il est renversé et que ça devient une valorisation, qu'il y a une sorte de fierté, une sorte de défi.
D'une certaine manière, les jeunes doivent s'affirmer, je dirais, par rapport à leurs collègues, par rapport à leurs parents, par rapport au monde environnant. Donc il y a cet aspect-là des choses, mais ce qui me semble très très important, c'est que d'une certaine manière, ces éléments sont des éléments qui sont un petit peu souterrains, c'est-à-dire qu'en fait on essaye de faire tomber les défenses aussi des jeunes par justement des produits d'une certaine manière qui sont extrêmement séduisants. Et c'est ce côté un petit peu, je dirais, embarqué, je dirais, indépendamment de leur volonté d'une certaine manière, qui pousse au fond, je dirais, ces alcooliers à renforcer une clientèle, enfin développer une clientèle auprès des jeunes qui ont quelquefois, je dirais, hésitent, enfin par rapport à un comportement.
On a vu il y a pas longtemps un témoignage chez Max Milo d'un ancien de chez Ricard, dealer légal, qui expliquait comment chez Ricard, mais c'était avant 2002, hein, avant la parution de ce livre, je ne veux pas m'attirer de procès, les agents commerciaux de l'alcoolier savaient comment fixer les habitudes des jeunes dès l'âge de 14 ans. Guy Carreau, moi souvent quand je fais une émission à France Culture, puis c'est le cas de tous les autres producteurs, on pense à ceux qui les écoutent et qui ne sont pas en liberté. J'aimerais bien qu'on ait quand même une pensée dans cette exaltation de la fête comme libération pour les alcoolos dépendants, c'est-à-dire pour ceux qui vivent l'alcool comme une prison, qui comptent les pas là, pour les contrôler, qui ont ce que vous appelez le palu du comptoir, vous savez, dans les cafés des ports bretons, le palu du comptoir, on a les mains qui tremblent dès le matin parfois.
Alors c'est important que vous en parliez, parce que quand on parle d'alcool, on a tendance quelquefois à faire des amalgames, des caricatures, et à voir les manières de boire et les problèmes d'alcool à travers des œillères. Or, il faut distinguer pour pouvoir être plus efficace pour la pédagogie, pour la prévention, la réduction des problèmes d'alcool, distinguer ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'alcoolodépendance, c'est-à-dire des gens qui sont, entre guillemets, hein, alcooliques chroniques, entre guillemets, qui ont besoin de boire dès le matin, tous les jours, et qui ont des graves maladies avec ça, et qui peuvent être soignés, qui sont, on le voit dans les mouvements d'anciens buveurs, entre guillemets, libérés de l'alcool. Il faut distinguer ça et les manières de boire des jeunes qui ont des problèmes occasionnels et non permanents tous les jours de la semaine, et parfois des problèmes graves. Et sinon, si on confond tout ça, si on parle d'alcoolisme des jeunes, non seulement ils ne s'y reconnaissent pas, mais en plus, au lieu de les aider à traverser cette période difficile en évitant un certain nombre de dégâts, On a un paradoxe d'effet pervers, c'est-à-dire opposé au but recherché, c'est-à-dire qu'il y a, en effet, comme disait André Sauvage, moi je suis d'accord avec lui, il y a une sorte de défi, de provocation, notamment pour contester et même se révolter parfois contre des interdits de boire comme des adultes, qui savent boire, qui savent faire la fête. Mais au bout d'un certain temps, après quelques années de jeunesse, où ça c'est, il y a un apprentissage. Bon, j'arrête là pour pas être trop long.
Et vous nous avez promis une surprise avec Odile Henquin qui est derrière vous. La surprise, ça ne consiste pas à chanter un chant breton comme vous le faites à peu près toutes les semaines maintenant au micro de travaux publics.
Oui. Alors bon, quand même, à France Culture, on a fait chanter à Paris l'autre jour en breton. Évidemment, on résiste pas à ça. Un tel défi au jacobinisme parisien, à France Culture, en plus, dans toute la France, ça se refuse pas. Donc, avec Odile Hennequin, c'est la rubrique Le Chant du Boire. Bon, il y a aussi une rubrique Le Cinéma du Boire, mais Le Chant du Boire en Bretagne, il y a une culture populaire du chant sur le boire, en breton, en français, en gallo, c'est-à-dire, entre guillemets, la langue patois de la Haute-Bretagne, de l'Est de la Bretagne. Il y a une riche tradition. Et on a choisi, non pas de vous chanter toute la chanson parce que ce serait trop long, mais le début de la chanson, dont je vais résumer le sens. La chanson, c'est sonarchistre, c'est-à-dire le chant du cidre. Et c'est un buveur de cidre qui raconte que il boit du cidre, c'est bon, enfin on va vous traduire les deux vers qu'on va chanter en breton, et puis, mais après il dit, moi je me suis marié, et puis au bout de 3 mois déjà, ça allait mal, je prenais des coups de la part de ma femme, et puis elle me fermait la porte au nez, mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que on a dit de moi que j'étais buveur, fumeur et coureur de jupons. Voilà la chanson qui est une sorte de résistance et...
Alors allons-y, Odile.
Alors voilà, donc on y va. Alors, les deux premiers vers, je l'ai dit en français parce qu'après c'est plus savoureux de les entendre en breton, c'est « bois donc du cid, Guillaume, bois donc du cid, un sou la chopine ». Bon, ce serait peut-être comme 20 centimes d'euros aujourd'hui ou 1 euro, bon, ça dépend des endroits. Et puis, le cidre est fait pour être bu et les femmes sont faites pour être aimées. On y va. Alors c'est encore Canadiscan. Bon, je vous ai dit la surprise. Oui. Ouais. Le Canadiscan, ça veut dire chant et contre-chant. Ça veut dire chant et contre-chant en breton. C'est-à-dire c'est une forme populaire de chant qui permet à toute l'assistance de danser par deux chanteurs a cappella qui se répondent. Un chante et l'autre prend. On y va. On prend un peu son souffle. Efshistalaurak, she's on matlon la, efshistalaurak, she's on mat.
Efshistalaurak, she's on matlon la, efshistalaurak, she's on mat.
Efshistalaurak, she's on mat. Heure blanc, ar chopinat long la, heure blanc, ar chopinat.
Efshistalaurak, she's on mat. Heure blanc, ar chopinat long la, heure blanc, ar chopinat.
Archisogrette, vide, bout et vête long la, archisogrette, vide, bout et vête.
Archisobret, vite, boutevet, long, là. Archisobret, is, boutevet.
Archisobret, vite, boutevet. Agar, myriette, vite, bout, carrette, long, là. Agar, myriette, vite, bout, carrette.
Archisogrette, vite, boutevet. Archisogrette, vite, boutevet, long, là. Archisobret, vite, goutevet.
Et ça continue, et les gens dansent là-dessus.
Et ils applaudissent, j'imagine. Voilà. De toute façon, pour créer, disent Christophe Moreau et André Sauvage dans les fêtes, le dérèglement sensoriel, il n'y a pas besoin de connaître la langue, comme on l'expliquait tout à l'heure. On n'a pas besoin de connaître l'anglais pour apprécier le rock. Alors, vous n'êtes pas fatigué, vous qui êtes d'une génération proche de l'adolescence, Christophe Moreau, de cette présentation de la fête et de l'alcoolisme sous forme d'ivresse, à distinguer dans l'alcoolisme sous forme de dépendance comme résistance, libération, ça sent les vieilles interprétations respectables. Vous les citez dans votre livre, Caillois, Duvigneau, un peu marqué de freudisme, et qui correspondent pas nécessairement à ce qui se passe chez les jeunes aujourd'hui.
Non, parce que disons que la réflexion qu'on porte, c'est de dire que c'est pas de la marginalité au sens se mettre à l'écart ou vivre une transe un peu cachée dans son coin qui serait plus pathologique, je dirais, mais on est plus sur la question de l'espace public. Donc nos jeunes, ils apparaissent sur l'espace public. S'ils voulaient se cacher, ils iraient se cacher. Et là, on pourrait parler de tendance plutôt pathologique. Or, il y a vraiment une volonté d'être visible, d'être présent à la société, et c'est ça qui nous interroge. Donc en gros, moi, ce que je comprends, c'est que ces gens, ils ont envie d'être visibles, d'être présents sur l'espace public,
et l'idéologie de la tolérance zéro, l'idéologie de l'ivresse zéro, ça peut faire que rendre clandestins ces mouvements-là. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'instaurer un dialogue avec ces jeunes et de les aider à réguler leurs émotions et leurs pulsions, eh ben on va fixer des interdits et puis on va créer en fait des mouvements clandestins. Donc on l'avait vu depuis les années 90 avec les Technival et Free Party. Et puis c'est exactement ce qu'on voit aussi en fermant les bars à 1 heure à Rennes, en interdisant les cafés-concerts. Il y avait 20 à 30 cafés-concerts il y a 15 ans. Il en reste 2 aujourd'hui enregistré en préfecture. Donc en fermant ces établissements qui diffusent de la musique, qui diffusent de l'émotion jusqu'à 3 heures du matin, on ferme tout à 1 heure et donc du coup on rend des comportements plus marginaux alors que la tendance initiale c'est pas une révolte cachée, c'est une volonté d'exister publiquement.
Alors, évidemment là vous rejoignez encore une fois Guy Caro alors que j'essaye de vous séparer. Guy Caro il dirait que chaque fois qu'on éloigne un alcool quelque part, il va ressurgir ailleurs. Alors, avant de prendre le cas des arrêtés préfectoraux et du fonctionnement des bars de Rennes, sur les lieux de travail, vous avez travaillé autrefois avec votre association Guy Caro à la Poste ou ailleurs. Il y a des règlements intérieurs qui interdisent l'alcool maintenant, mais on se souvient plus guère de la loi de 1913 qui l'interdisait aussi, et dans le Code du travail, il est encore permis, notamment pour les pots, hein, de départ, de retraite, l'hydromel, le poiré, le cidre et même le vin. Quand on arrête avec des interdictions de boire sur les lieux de travail cette tradition, vous vous dites qu'elle va ressurgir ailleurs.
Alors, voilà. Moi, j'aimerais bien parler de ça, mais on a plus que 20 minutes. Alors,
non, mais moi, j'aimerais bien contrôler mon ordre. Parce que l'ivresse, il faut toujours la réguler. C'est votre leçon aux uns et aux autres. Et après, on parlera de Rennes. Allons-y. Mais sur le travail.
Allons-y. Sur le travail, je vais pas faire des discours là-dessus. J'ai pas envie de faire de la pub pour mon bouquin. Mais dedans, le tiers du bouquin porte là-dessus. Alors, les gens qui auront envie de voir des choses là-dessus, et je vais m'arrêter ça, ce sera chez les libraires dans 10 jours, ça s'appelle « De l'alcoolisme au savoir-boire », et il y a des expériences menées en Bretagne et en dehors de la Bretagne qui ont marché en plus sur la question des manières de boire, des problèmes d'alcool en entreprise et en sécurité routière.
Alors là, il prend de l'avance sur les malheureux André Sauvage et Christophe Moreau qui n'ont pas leur livre en librairie avant 3 semaines. Pas mal joué, docteur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'espace public, dans la ville? Vous dites joliment, André Sauvage, que la ville devient un intérieur. C'est une jolie formule. Le centre-ville est devenu un intérieur.
Oui, le centre-ville, d'une certaine manière, comme tous les espaces publics disent certains architectes, est un intérieur, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il est proposé un prolongement par les propriétaires de leur logement de cet espace, finalement, de la rue, qui est donné par les propriétaires. Et d'une certaine manière, c'est un premier élément d'un prolongement de l'intérieur qui fait un intérieur de la cité.
Et puis, quand même, il ne faut pas perdre de temps, nous a dit le docteur Caro, on pourrait dire, d'une jolie formule aussi, que le centre-ville est devenu dionysiaque.
Aussi.
Hein, c'est pas mal, ça, c'est assez France Culture.
Il est, oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est le moment d'en parler.
Oui,
nous sommes avec Dionysos.
Dites-moi, le centre-ville, vous le décrivez comme étant fait à 70% de ménages d'une seule personne.
Oui.
À Rennes.
Oui.
Hein, 50% des Christophe Moreau.
Ça évolue.
Pas mal de personnes d'un certain âge.
Oui.
Hein, comme notre ami Daniel, qu'on va sûrement réentendre tout à l'heure.
Ouais.
Non, un peu d'ordre dans l'émission. Je veux d'abord faire entendre un riverain enregistré par Gabriel Théry. À lire le livre de Messieurs Sauvage et Moreau, on dirait, Gabriel, qu'il y a une gentrification complète du centre-ville de Rennes. Alors avec votre flair, vous avez trouvé quelqu'un qui, habitant rue Saint-Michel, n'appartient pas aux couches les plus aisées de la population.
A priori non, vu qu'il y a encore quelques mois il vivait en caravane, donc c'est ce qu'il indique dans le petit reportage, et finalement ça le dérange un peu, bon, mais il comprend.
Personnellement, ça fait 4 mois que je suis là. Avant j'habitais en caravane, je me plaisais plus en caravane.
Moi j'habite au 2e étage, je vais les boules de caisse pour dormir, et bon, je suis quand même quelqu'un qui a vécu pas mal et qui est plutôt tolérant, et je trouve ça relativement tolérant de pouvoir faire la fête maintenant, c'est quelle image, je veux dire, c'est un peu bidon quoi, dire, c'est une hystérie, je veux dire, c'est une hystérie qui est quelconque, hein, je veux dire, elle est partout quoi. À 20 piges, j'essayais de gérer mes potes, hein, Maintenant, qui c'est qui gère ses potes? Je sais pas, quoi. Est-ce qu'il y a toujours... Je sais pas.
Oui, alors, il est quand même un peu mécontent, bien que tolérant, pas à 100% peut-être, ce jeune riverain. Alors, depuis quelques mois, on en a déjà parlé dans une émission sur deux, ici à Rennes, depuis que nous y sommes, s'est construite une controverse politique, Christophe Moreau, à Rennes.
Ben, plus qu'une controverse, disons, on peut appeler ça une partie de ping-pong entre l'État et la ville. Bon, les uns un jour voulant légiférer, les autres voulant donner une autorisation, puis c'est assez burlesque en fait, d'année en année, soit la préfecture avance en proposant un terrain pour une soirée clandestine, ensuite c'est la ville qui va... Enfin, il y a un espèce de passe-ballon entre la ville et l'État qui empêche en fait une réelle, un réel partage des responsabilités. Et ce qu'on observe, c'est qu'on reporte la responsabilité sur les autres, sur les gérants des bars, sur les associations, sur les jeunes, alors que, à mon avis, les pouvoirs publics avaient d'autres cartes à jouer.
Alors, la préfecture a réglementé la fermeture des bars. Donc une heure du matin, enfin, avancer la fermeture, retarder l'ouverture au petit matin. Alors voilà, au micro de Gabriel Théry, ce qu'est l'ambiance à une heure. Il est 19h13, disait Didier Sudre, donc vous avez encore un peu le temps. À une heure, ce sera ça. Alors, si j'en crois la théorie de Guy Carreau, je ne sais pas si c'est votre point de vue, Ronan Le Louarn, je me tourne vers vous parce que vous avez été garçon de café dans un bar. Quand on ferme quelque part, ça se reporte ailleurs.
Oui, absolument. Du temps où j'étais garçon de café, il y avait les bars de nuit, dits café-concerts, il y en avait un certain nombre en centre-ville et il y en avait un petit peu partout dans la ville. Donc la fête, enfin la piste avait tendance à se déporter vers les bars de nuit. Quelques-uns traînaient avant de rentrer chez eux. Et puis bon, les choses se passaient à peu près correctement. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec cette fermeture, c'est qu'à une heure, il y a un point de fixation qui va durer une heure et demie, deux heures, qui va se terminer par des affrontements qui sont quasiment prévus d'avance et qui sont quasiment de la provocation. Maintenant, ça s'est calmé depuis quelques mois suite aux polémiques qu'il y a pu avoir, mais on a eu quelques jeudis soirs qui étaient extrêmement violents. Et on a aussi des jeunes qui vont se retrouver à aller boire dans les appartements, qui sont situés en partie en périphérie du centre ou dans le centre-ville. Et donc, ce qui est le rôle de l'espace public, à savoir gérer la fête, gérer la foule, or la foule est interdite aujourd'hui, ça devient le rôle de l'espace privé.
C'est-à-dire que vous, qui étiez fatigué d'être garçon dans un café, qui avez trouvé un autre métier, maintenant vous êtes obligé de faire la police dans votre appartement, parce que les voisins du dessus ou du dessous...
Bon alors, les voisins du dessous, qui ont l'âge que j'avais quand j'étais garçon de café, font la fête dans l'appartement. Or, j'étais pas fatigué parce que j'ai toujours eu une bonne santé, mais à l'époque, j'allais faire la fête, place du Champ-Jacquet, dans les bars de nuit, après la fermeture du bar où je travaillais. Et maintenant, ces jeunes viennent faire la fête dans l'appartement, donc évidemment produisent des nuisances. Maintenant, je peux pas leur en vouloir non plus, connaissant le prix d'une consommation dans un vrai bar de nuit qui ferme à 5h, ce qui est impossible. En plus, il y en a pratiquement plus à Rennes. Et je me retrouve confronté avec un déplacement du phénomène de foule à petite échelle, ils sont 10, ils sont 12, dans un lieu qui est censé laisser dormir les gens qui vont travailler tôt le lendemain matin et qui sont pas forcément en situation de supporter ça jusqu'à 3-4 heures du matin.
Donc moralité, selon André Sauvage, à un moment X, le centre-ville était devenu un appartement et maintenant... Les appartements deviennent des centres-villes si le centre-ville ne peut plus être la place commune.
Oui, parce qu'on vend le centre-ville comme un appartement, enfin comme une extension de l'appartement, et c'est la logique foncière, voilà. Mais on oublie de dire qu'il y a des vigiles un petit peu pénibles qui vont intervenir vers 1h15 et se comporter vis-à-vis d'une bande de jeunes en état d'ivresse, ce qui est quelque chose d'assez courant, comme si c'était de dangereux voyous ou des casseurs extrêmement dangereux, et ça n'a aucun sens, un tel déploiement de force dans ces conditions-là.
Alors, ce qui se passe dans les appartements, tous les jeudis, nous avons... notre Shadok dit qu'il n'est pas d'accord, mais je vais lui redonner la parole dans un instant. Il faut réguler les comportements. À cet instant précis, tous les jeudis, Isabelle de Skrilud, le festival qui aura lieu au mois de juin, nous lit une lettre et celle-ci se passe justement à la suite d'événements qui se sont produits dans un appartement chic. Vous avez une femme de ménage
Oui, non, moi pas, non. Mais...
Alors là, vous imaginez la lettre d'une femme de ménage.
L'employé de maison qui écrit à sa patronne. Donc, Rennes, dimanche 21 mai, Madame Langlois. Hier matin, l'hôpital de Brest m'a appelé. C'est ma mère. Elle a recommencé à boire. Sa voisine l'a trouvée ivre morte dans l'entrée de l'immeuble vendredi soir. Elle a fait une mauvaise chute et maintenant il faut lui trouver une place dans une maison spécialisée. Je prends le train pour Brest tout à l'heure. Comme vous partez à Cuba mercredi, je suis revenue tôt ce matin pour vous repasser un maximum de linge. Madame Langlois, j'ai quelque chose de pas facile à vous dire et je prends mon courage à deux mains. C'est à propos de Chloé et de Tristan. Vous savez l'affection que j'ai pour vos enfants. Il faut dire que je les ai vus naître, ils ont fait leurs premiers pas avec moi. C'est ce matin en arrivant à 8h. Il y avait je ne sais pas combien de voitures et de scooters devant chez vous. Comme d'habitude, je suis entrée par la porte de derrière. La buanderie était tout en chantier, bouteilles vides, poubelles renversées, verres cassés. Et dans la cuisine, c'était pire. Des verres et des verres à n'en pas finir, des cendriers pleins, des saletés plein le carrelage, plein l'évier. Je suis très gênée de vous dire ça. J'ai été indiscrète, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Dans le hall, le salon, la mezzanine, la bibliothèque, il y avait plein de jeunes gens avachis. Bien entendu, je ne suis pas montée à l'étage. Quel spectacle. Tous ces garçons et ces filles encore à moitié ivres, incapables de bouger, malades. J'ai eu un choc, je ne m'attendais pas à ça. J'ai fini par trouver Tristan et Chloé là-haut, dans la mezzanine. J'ai eu peur qu'elles soient tombées dans le coma. Chloé et Tristan, et leurs camarades, avec des parents comme vous, médecins, avocats, qu'est-ce qui leur arrive? Il y a autre chose qui m'inquiète, c'est que ce n'est sans doute pas la première fois. Depuis quelques mois, certaines petites choses m'ont mis la puce à l'oreille. Depuis qu'ils ne vont plus à dinard avec vous, depuis que vous leur laissez la maison tous les week-ends. J'espère, Madame Langlois, que vous ne m'en voudrez pas. J'ai été tellement choquée de les voir dans cet état, bien plus que par le coup de fil de maman. Avec la vie qu'elle a endurée, c'est pas étonnant d'être tombée dans l'alcool, mais ces jeunes qui ont tout. Il ne faut pas qu'ils se mettent à boire. Je dois me dépêcher pour aller attraper mon train. Je voulais que vous sachiez avant votre départ pour Cuba. Il peut arriver tant de choses. Votre dévouée Françoise.
Guy Caro.
Oui, j'aimerais bien qu'on sorte du microcosme rennais. Pas après le superbe texte qu'on vient d'avoir, parce que ça peut être universel aussi. Mais après ce qu'on dit sur les jeunes à Rennes, les problèmes. Je voudrais dire simplement qu'il ne faut pas oublier de relier ça, la contestation rennaise des jeunes, du pouvoir d'une préfète jacobine, c'est son boulot à Rennes.
On rentre dans le microcosme là.
Oui. Non, mais et du maire de Rennes. Oui, mais justement, parce que la préfète, elle est nationale, elle applique une politique nationale. Et la politique nationale, c'est une politique que je qualifie de schizophrénie de la santé publique. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez un discours depuis 1990, depuis dans l'histoire contemporaine, depuis la loi Evin contre l'alcoolisme, un discours qui a conduit à une puritanisation de la société française, notamment avec l'amalgame en 1999, voté par une loi, entre drogue dure, alcool et vin. Et d'autre part, en même temps, diffuser aux États-Unis ce qu'on appelle le French Paradox, c'est-à-dire, pour le résumer en trois lignes, le French Paradox, c'est le constat paradoxal que dans les pays occidentaux industrialisés, la France, pays du bien manger et du savoir boire, notamment boire du vin au cours des repas, et le pays en dehors du Japon, en Orient, qui a la plus faible mortalité cardiovasculaire. Et c'est lié notamment au fait qu'on prend des vrais repas, on grignote pas avec comme certains, dans certains pays que je ne nommerai pas, toute la journée, mais on prend trois vrais repas. Le savoir boire, c'est ne pas boire d'alcool entre les repas. Et c'est boire, parce que c'est bon pour la santé. Je dis ça alors que je suis médecin, alcoologue, et j'ai pas peur de le dire, de boire régulièrement du vin riche en tanins, parce que c'est bon pour les vaisseaux.
D'accord, mais je vous interromps là, parce qu'on va dire que vous êtes un supplétif au nom du vin médecin des alcooliers. Et je reviens à votre leitmotiv. Guy Caro, si les statistiques étaient régionalisées, on aurait des éléments plus précis sur la Bretagne. S'il n'y avait pas eu la guerre de 14-18, le vin rouge aurait moins pénétré en Bretagne. Et s'il n'y avait pas l'État jacobin, s'il n'y avait pas les lois de l'État jacobin. Vous n'êtes jamais d'accord, vous, Daniel Le Chadoc. Qu'est-ce que vous pensez des lois actuelles?
Jamais d'accord. Parce que, d'abord, j'étais à Pontchaillou et j'ai regardé un feuilleton C'était les toubibs qui buvaient. Buvez, buvez, canez trop.
J'essaye de mettre un peu d'ordre au nom du même principe que j'ai dit que depuis le début de l'émission. Tout à l'heure, avant l'émission, vous me disiez je ne suis pas d'accord avec les lois actuelles.
Exactement. Je ne suis pas d'accord avec les lois parce que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Parce que je trouve qu'on devient dans une société sectaire. Ah, il faut pas boire, il faut pas fumer, il faut pas baiser, il faut rien faire.
Alors, ça, vous l'avez déjà dit. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Christophe Moreau.
Non, je voulais revenir sur quelque chose qu'a dit Monsieur Caro.
On a eu une illustration du refus de la puritanisation, pour reprendre le langage.
Oui, voilà. Nous, on a appelé ça la médicalisation de l'humain. C'est-à-dire qu'on l'a vu à travers les approches politiques de santé, politiques éducatives et voire affaires de l'INSERM. On voit que...
L'affaire de l'INSERM, on a déjà souvent parlé sur France Culture, et ça rebondit avec la loi sur la délinquance, la prédictibilité chez les très jeunes de conduite à risque à l'adolescence.
Ouais, voilà, avec peut-être des préconisations en termes de médicaments par rapport à des jeunes enfants, voire des adolescents. Donc ce qu'on avait envie de dire, c'est que on va substituer à une logique éducative humaine où il faut de la relation entre les humains, il faut de la relation avec papa, maman, les enfants et tout, on va substituer à ça de la médicalisation, des médicaments, de la ritaline, des amphétamines, ce que vous voulez, ou alors ce qu'on appelle de la résidentialisation, donc c'est des dispositifs techniques qu'on va mettre à la porte de nos immeubles ou des caméras de surveillance, donc on va substituer des dispositifs techniques pour remplacer la relation humaine. Donc on est dans, moi, ce que j'ai appelé par ailleurs, un peu une dynamique de naturalisation de l'humain. On fait comme si l'homme n'était pas un être de culture, mais était un être un peu matériel qu'on va pouvoir régenter par des techniques. Et je voulais profiter d'avoir la parole pour faire le pont avec d'autres choses. C'est vrai qu'on parle de Rennes, mais par exemple en Espagne, il y a le phénomène des botellones. Ça fait déjà 4 ou 5 ans. Vous avez des milliers de jeunes qui s'alcoolisent sur les espaces publics à Madrid, etc., par milliers. On vend là-bas 3€ 2 litres de vin rouge, 2 litres de coca et les verres plastiques qui vont avec. Donc ce phénomène-là, il est massif et c'est bien un phénomène d'attente de la jeunesse et de déficit éducatif. C'est pas un problème strictement rennais. Et pour terminer, suite au match de ping-pong dont je parlais tout à l'heure entre ville et préfecture, il y a quand même eu des initiatives, à mon avis, heureuses, mises en place avec la ville, avec le Centre Régional d'Information Jeunesse. Ça s'appelle Dazibao. C'est offrir des espaces où on peut se rencontrer, où on peut faire des choses sans alcool. Et ça réunit 2 à 3 000 personnes à Rennes chaque jour.
Il y a plein d'initiatives originales, les navettes dans les boîtes de nuit. Puis je recommande aussi le système, je reviens au microcosme rennais, qui a été mis au point par Christophe, je crois, et ça s'appelle Apéro Minuit. C'est à destination des 24-38 ans qui sont un peu gênés par l'arrêté qui interdit aussi entre 19h, il est 19h24, et la nuit, le transport dans la zone où nous sommes, de tout récipient contenant de l'alcool. Donc apéritif minute, ça consiste à servir en complément de votre pizza, par exemple, à domicile, un apéritif.
Rennes, c'est aussi, enfin je sais pas, pas mal de gens qui se retrouvent dans les appartements. Donc c'est un service qui peut aussi très bien, enfin qui s'adapte très bien justement sur ces situations, quoi. C'est vrai que depuis un an et demi, Rennes s'appauvrit un petit peu au niveau des soirées nocturnes, quoi, aussi bien au niveau des ambiances de bar où il y a de moins en moins de scènes, DJ ou autre, quoi. Et les bars de nuit qui ferment de plus en plus tôt, enfin bon, ce phénomène qui fait que les gens restent plus facilement chez eux, et puis bon, également tous les incidents qu'il y a pu avoir en ville ces derniers temps, quoi. Donc, a priori, oui, enfin, nous, on travaille avec beaucoup de gens qui font pas que rester chez eux, mais en tout cas, ouais, qui se voient essentiellement en appartement, quoi.
À malin, malin et demi. On va finir avec un dialogue de médecin, le docteur Lelièvre, qu'on entendait tout à l'heure, c'est pas une histoire, là.
Non, simplement, j'ai eu la surprise, il y a 2 ou 3 ans, d'aller porter de la littérature anti-tabac, parce que je suis anti-tabagique à outrance. Je suis tombé sur une responsable d'un grand collège de Rennes, et la responsable d'un air navré m'a dit, mais oui, c'est très bien ce que vous faites contre le tabac. Mais malheureusement, les filles boivent beaucoup plus d'alcool. Et c'est pas la faune qui hante Saint-Anne et le centre, c'est des jeunes, des tout jeunes.
À malin, malin et demi. On en revient toujours là, Guy Caro, docteur.
Oui, merci professeur. Bon, non, ce que je voulais dire, c'est que il y a un travail pédagogique qui est possible, qui a été expérimenté et qui se résume en une pédagogie cohérente face à l'alcoolisme et pour le savoir boire. Les deux en même temps. C'est-à-dire la rigueur, la lucidité, la rigueur pour aider les gens qui sont alcoolodépendants, qui ont des problèmes d'alcool, à s'en sortir, et d'autre part, à apprendre le respect des valeurs positives liées à l'usage des boissons alcoolisées, principalement du vin, dans les sociétés comme les sociétés européennes, France, Italie, Espagne principalement, mais les autres aussi, où les boissons alcoolisées ne sont pas diabolisées, ne sont pas que du mal, elles peuvent faire du bien si on en use avec, dans les manières de boire, dans les fêtes, quelque chose qui socialement et individuellement peut être contrôlé pour les risques. Alors, j'arrête là parce que ça, il faut le développer évidemment, mais sagement, on arrête maintenant parce qu'il est tard.
Et puis, François Bayrou, souvenez-vous, docteur Caro, quand on voulait mettre en place des procédures de dégustation à l'éducation nationale, et ses successeurs doivent faire la même chose, disait attention aux ambiguïtés. Moi, j'en retiens, André Sauvage, ça c'est une forte maxime de votre livre, que la fête, l'ivresse sont des phénomènes complexes qui méritent des solutions complexes.
Voilà. En même temps, je crois que nous sommes dans une société qui a basculé, c'est-à-dire que nous sommes, il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle les psychopathes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément la capacité normative de se maîtriser et de bien boire. Parce que je crois que la question, elle est là. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il faut,
pas seulement là,
mais aussi là, il faut aussi cette capacité, justement, de maîtrise qui n'est pas toujours présente chez
nous. Demain, le pince-oreille à Poitiers, chez Ségolène Royal, sans Ségolène Royal, qui sera dans le Lot-et-Garonne. On va essayer d'imaginer, sur le mode de Wikipédia, de la démocratie participative, ce que pourrait être une politique culturelle et d'écrire un livre comme ça, avec les auditeurs de France Culture, à chapitre du livre à venir de Ségolène Royal. Donc, rue des Trois Rois, la bien nommée, au pince-oreille demain, et puis Istanbul lundi et mardi. Alors, on finit avec nos amis des Balkans qui nous mettent déjà dans la direction de l'Est de l'Europe. Bachabab. Avec Didier Sudre, Jean-Christophe Francis, Emmanuel Giraud qui a préparé cette émission. Travaux publics quittent Tiana, on y sera encore jeudi prochain. Et on retrouve le rendez-vous des politiques à la Maison de Radio France.